Bonjour et bienvenue, émission enregistrée au cinéma Majestic à Douai à l'occasion du FIGRA, Festival International du Grand Reportage d'Actualité, notre dernier grand plateau à l'occasion de cette semaine consacrée donc au journalisme, à l'enquête, au reportage et au documentaire. Mes côtés Carole, bonjour Carole.
Bonjour à tout le monde.
Toujours là, il continue à sécher les cours, Antonin. Salut Antonin.
Salut à tous.
Et puis Joris qui nous fait l'honneur
oui,
de sa présence.
Moi aussi je sèche les cours.
Tu sèches les cours ouais. également. Eh ben bravo. Et puis aujourd'hui nos invités, et je pense que c'est la première fois qu'on reçoit des invités en plateau dont on a vu tous les quatre le documentaire. Donc on pourrait être à quatre à en parler. Allez Carole, je te laisse nous faire les présentations.
Donc nous avons Hélène Hugues qui est réalisatrice et Mathieu Auville qui est caméraman.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
On vous voit pour un documentaire dont on va parler. Il s'intitule « Stérilisation forcée, le combat des femmes inuits » en compétition dans les documentaires moins 40 minutes. Un format court, 18 minutes de documentaire, mais 18 minutes intenses. Avant de parler, à proprement parler, du corps de ce documentaire, une sélection au FIGRA, ça représente quoi ?
On est fiers.
Ça compte beaucoup.
Ah bah oui, c'est une reconnaissance. Voilà, on n'est pas du tout sûr de gagner le prix puisque 14 sélectionnés dans la catégorie, donc bien sûr, mais on est très très fiers. D'ailleurs, on a fait le déplacement tous les deux, on est très contents. Ouais.
C'est la première fois ?
Oui.
Ouais.
C'est la première fois et ouais, c'est un honneur.
Première fois,
Ouais, pareil. Mais c'est vrai que c'est déjà, on est déjà très content d'être sélectionné. Même si on gagne pas, on est déjà nominé, c'est bien pour nous.
C'est quoi la relation qui existe entre un auteur et un cadreur, preneur d'images ?
Alors c'est moi qui réponds, c'est toi.
ça va être les deux, mon général.
Alors, c'est un travail d'équipe, de toute façon. Déjà, c'est une confiance commune. Il faut bien s'entendre, il faut. Il faut aimer le projet tous les deux parce qu'on va travailler en commun, donc il faut aller dans le même sens. Donc c'est hyper important d'avoir déjà une correspondance.
Comment vous avez sélectionné, choisi, opté ?
Le caméraman.
Le caméraman.
Mais parce qu'il est excellent, c'est un des meilleurs de la télévision publique.
Rien que ça.
Oui, rien que ça. Non, c'est... mais je le dis, vraiment. Non,
c'est-à-dire qu'on regarde son travail, sa façon de...
Bon, chacun a sa réputation, etc., dans la maison, mais oui, c'est une sensibilité. Un bon caméraman, c'est quelqu'un qui regarde autour de lui, qui voit tout ce qui se passe, qui sait raconter sans orgueil, sans prétention, sans prétendre être un artiste. Mais qui fait quand même des cadres très beaux et qui raconte la réalité, qui perd pas de vue qu'on est quand même d'abord des journalistes, on n'est pas des cinéastes, mais si on peut faire des belles choses, on les fait. Si la réalité, mais on ne cherche pas à enjoliver non plus la réalité, on est des journalistes. Donc c'est un œil, c'est un regard, il voit partout, il voit les choses et puis il y a des idées aussi parce qu'on est sur ce qu'on appelle une quelque chose de froid, un sujet froid, c'est-à-dire qu'il faut quand même le scénariser un peu pour le raconter, donc il faut avoir des idées et là on est en plus sur un reportage de témoignage, c'est pas simple parce que voilà, des fois vous avez des images qui tombent tout cru parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui se passe sous vos yeux. Là on a tout à trouver pour et voilà, et c'est quelqu'un aussi qui sait capter la sensibilité. Et là, dans ce reportage, il y en a beaucoup, quoi.
Témoignage dans ce documentaire, témoignage de femmes, essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement des femmes, inouïes. Inuites. qui vivent au Groenland et qui ont été... Le mot n'est pas donné dans le documentaire. Documentaire, mais mutilé. On peut parler de mutilation gynécologique à des fins de non-procréation.
Ah bah oui, forcément. Là, elles le disent toutes. Elles ont toutes subi l'acte déjà avant la stérilité. Elles ont subi ce qu'on leur a fait. Elles sont rentrées dans la sexualité par là, donc c'est quand même compliqué.
On est dans les années 60-70 quand ça se produit.
60-70, oui.
Quand ça se produit tout ça, sans le consentement de ces jeunes filles qui avaient qui ont subi la pose d'un stérilé entre 12 et et 16 ans à peu près.
Oui, enfin, c'était même des femmes plus âgées, le cas échéant. C'était une campagne de stérilisation massive. Mais il y avait effectivement une grande campagne de stérilisation en quatrième. Donc elles avaient 13-14 ans. Donc c'est aussi pour ça qu'il y en a des plus jeunes, il y a quelques-unes qui avaient un an d'avance, donc elles ont été stérilisées comme ça, aussi à 12 ans. Donc pour certaines, elles n'étaient même pas encore pubères. Ça a été beaucoup ça. Pour après, c'était à l'occasion d'un avortement ou bien après un accouchement, des femmes en avaient peut-être un petit peu assez. On leur expliquait que on pouvait leur mettre un stérilet pour pas qu'il y ait un enfant de plus. Et puis comme il y avait la barrière de la langue, c'est là que la question du consentement se pose. Pour les gamines de 13 ans, il n'y en avait pas de consentement. Elles ne savaient même pas ce qui leur arrivait, elles ne savaient pas ce qu'on leur faisait. Mais pour les femmes plus âgées, peut-être qu'elles ne savaient pas non plus parce qu'elles ne comprenaient pas ce qu'on leur disait. C'était des médecins, ils étaient danois. Donc il y avait une nurse, une infirmière à côté qui traduisait peut-être, mais comment traduisait-elle, etc. On n'avait pas le temps forcément de tout ça. Et il y avait un mot d'ordre du gouvernement danois qui était de poser ces stérilets et de stériliser ces femmes.
Ces femmes, aujourd'hui, sexagénaires, témoignent. Sous l'œil de votre caméra, comment vous avez, vous, eu connaissance de ce qui s'était passé là-bas?
Alors de manière simple, quand on cherche des sujets pour notre émission qui s'appelle Nous les Européens sur France 2, on va dans différents pays d'Europe. Le Groenland, on n'était jamais allé, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, et on est tombé sur ce sujet qui est assez récent en fait, et méconnu, puisque la première fois que Naya Libert, qui est la lanceuse d'alerte dans cette affaire, raconte sur Facebook qu'elle a été stérilisée contre son gré à l'âge de 12 ans, c'est en 2017, donc c'est très récent. Et ça a un effet, c'est repris. C'est-à-dire que plein de femmes du Groenland lui répondent sur Facebook. Tiens, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Puis ça fait boule de neige. Et puis là, il y a deux journalistes danoises qui s'emparent du sujet, enquêtent un peu plus loin et consultent les archives et se rendent compte que, c'est... c'était une campagne à grande échelle, c'était une volonté du gouvernement danois de limiter le taux de natalité du Groenland, qui était un des plus élevés au monde, et de le limiter, elle trouve dans leur enquête et dans les archives, pour des raisons économiques, parce que ça leur coûtait tout simplement trop cher d'avoir trop d'enfants au Groenland. C'était pour véritablement faire baisser la natalité, ce à quoi le gouvernement danois parvient, puisqu'en une dizaine d'années, la natalité passe de 7 enfants en moyenne par femme à 2 enfants. Et c'est repris par ces journalistes danoises. Il y a eu ensuite un reportage par la BBC. Il y a eu une photographe française qui a fait quelques très belles photos là-bas et qui ont été reprises dans la presse écrite. Comme tout le monde, on tombe sur ces articles en cherchant, en fouillant un petit peu la presse et ce qui a été publié ces dernières années sur le Groenland. On est tombé là-dessus, on s'est dit, mais il n'y a jamais eu de sujet télé là-dessus. Ils n'ont pas l'habitude des journalistes, c'est un pays quand même très désert, où personne ne va beaucoup, il commence à avoir du tourisme, etc. Mais bon, elles ne rencontrent pas tant de monde. Elles vont beaucoup au Danemark hein, quand même, il y a des échanges, les vont étudier au Danemark, etc. Mais c'est pas une terre vierge non, complètement, mais... il n'y a pas eu beaucoup de journalistes là-bas, tout simplement déjà parce que ça coûte cher d'aller faire des reportages au Groenland. Et puis, elles ne sont pas très, très volontaires pour témoigner. Il faut les conquérir, il faut les convaincre. On a mis 2 mois et demi, 3 mois.
Joris.
Oui, justement, expliquez-nous, vous avez mis 2 mois, 2 mois et demi. Quel a été, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre travail sur le terrain?
Sur place, par quoi on a commencé?
On a été voir Naya.
On a été voir Naya en premier, donc la Naya Libert, la fameuse lanceuse d'alerte, ouais. Et puis on a été voir, ah oui, on avait essayé d'avoir des rendez-vous avec le gouvernement local, voir, essayer de d'accéder un petit peu à l'historique sur place, des dossiers médicaux, des choses comme ça. Ça a été tout un périple aussi, hein. On nous a un petit peu noyé le poisson, on voulait accéder à cette fameuse gynéco qu'on voit dans le reportage qui raconte, qui a vu et qui a été chef du service gynéco de l'hôpital de Nouk, la capitale, et on voulait absolument la rencontrer, mais et on a essayé de nous noyer le poisson, de nous faire accéder à d'autres personnes,
des paroles plus officielles. Il y avait une méfiance de la part du Danemark. C'était pas si facile que ça.
Ouais.
C'était quasiment plus simple d'avoir les témoignages inuits.
Oui.
Carole.
Quand on est caméraman, comme ça, quand il y a des séances avec plein d'émotions, ça doit être compliqué aussi d'être derrière la caméra, mais de voir aussi ce qui se passe.
Oui. Alors, les interviews sont faites en langue inuite. Alors, moi, j'y comprends rien. Mais malgré la barrière du langage, on sent les, voilà, on voit bien ce qui se passe, quoi. Et effectivement, y a beaucoup de moments où beaucoup de gens pleuraient. Et moi, je suis un homme, et même c'est pas la même atteinte, je pouvais quand même entendre et être témoin. Et j'avais la petite larme à l'œil aussi, bien que je ne comprenne pas tout, parce que c'est vraiment c'est hyper poignant. Et puis, ces femmes inuites, elles, c'est vraiment pas dans leur culture de se livrer. Elles paraissent un peu austères comme ça. Et en fait, qu'elles nous accordent la confiance et qu'elles puissent se dévoiler comme ça face à la caméra, c'est important pour nous et c'est qu'on a gagné.
Et puis, un homme étranger.
Ouais, oui, bien sûr. Et puis il y a quelque chose qui est très fort également, c'est cette mère également qui est là à côté de sa fille. C'est une séquence très forte parce qu'on sent que il s'est passé forcément quelque chose. La mère ignorait certainement ce que sa fille allait subir. Sa fille en a fait le procès à sa mère et on se rend compte que 40-50 ans après, c'est pas cicatrisé tout ça.
Et alors cette séquence, pour revenir sur cette séquence, ça a été pas du tout simple à obtenir parce que on a eu il y a que la fille qui acceptait de témoigner. La mère voulait pas nous voir et donc on a recueilli le témoignage de la fille et c'est là que voilà, il y a tout ça aussi avec un caméraman dans l'équipe qu'on forme, etc. C'est la patience, c'est pas se dire allez, on va pas faire deux fois, on était dans le même chemin, on prend tout ce qui vient et puis on verra après. Et donc cette femme accepte finalement de témoigner. On fait une interview avec elle. Elle est effondrée toute l'interview. Elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pendant toute l'interview, elle tient. Il y a Naya, en fait, qui nous l'a présentée, la fameuse lanceuse d'alerte. Elle lui tient la main pendant toute l'interview. Et parfois, elle s'interrompt et elle la console, etc. Et puis, à la fin de tout ça, elle nous a tout raconté, tout expliqué. Ça a duré au moins une heure d'interview. Une fois qu'elle était lancée, ça y est, elle lâchait tout, mais elle tenait tout le temps la main de Naya. Et puis à la fin, on lui dit « Est-ce qu'on pourrait rencontrer votre mère ?» Parce que c'est intéressant d'avoir les deux générations. Puis on s'interroge, qu'est-ce qu'ont vu les parents? Qu'est-ce qu'ils ont laissé faire? Elle a demandé à sa mère et elle a accepté de nous voir le lendemain. Donc on a tout refait, tout le témoignage en entier, etc. Et d'où la patience qu'il faut avoir et être prêt à ça. Et on a tout refait parce qu'on s'est dit, mais cette séquence, elle est infiniment plus forte de la mère et de la fille ensemble. Et donc on lui a fait répéter, elle s'est prêtée, ça y est, la confiance était née. La fille avait sûrement dit à sa mère qu'on n'était pas des monstres et qu'on savait écouter. Il faut prendre le temps des fois, mais on n'a pas toujours le temps malheureusement dans les reportages, prendre le temps de la créer, cette confiance. Et en tout cas avec ces femmes, c'était la condition absolue, quoi.
Alors aujourd'hui, il y a une action en justice qui est menée par qui? Par ces femmes et par l'institution du Groenland, c'est ça, auprès...
C'est les femmes qui ont fait un recours. 143 d'entre elles, donc elles sont plus nombreuses, mais ont décidé de saisir la justice danoise contre l'État danois. Elles attaquent l'État danois pour avoir des indemnités sur ce qui leur est arrivé. Et le gouvernement est en soutien là-dessus. Alors, ils sont, alors, ça a changé de gouvernement depuis, mais je pense que ça ne change rien, parce qu'il est encore plus indépendantiste. Donc, ils sont en soutien là, et ils feront peut-être une action parallèle. Pour l'instant, ils sont dans l'idée d'avoir une commission d'enquête pour avoir des faits étayés, rassembler toutes les pièces.
Quand vous arrivez sur place, l'action en justice, elle est déjà engagée?
Elle est engagée, oui.
Est-ce qu'on se pose des questions à ce moment-là de comment on va poser les questions, réaliser ce qu'on va en dire alors qu'une action est en justice et que la chose n'est pas encore jugée?
Non, parce que ça, c'est la question que pose... à la limite les parties prenantes au procès, l'État danois, le gouvernement danois, personne n'a voulu nous répondre parce qu'ils sont parties prenantes au procès. Nous, on fait notre enquête, on cherche, et puis on fait des cas particuliers, on ne fait pas quelque chose de général.
Mais ce documentaire peut intégrer une procédure générale ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il peut devenir...
une pièce à conviction
en quelque sorte, ou des témoignages recueillis?
Je ne suis pas sûre, parce que ces femmes, toutes celles qui ont accepté de témoigner, elles sont dans la procédure et leur dossier est plus étayé que le reportage en soi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont versés au dossier, à leur dossier. Donc voilà, nous, c'est que de la télé, donc c'est incomplet sur la procédure judiciaire.
Et on sait combien de temps elle va durer, à quel moment ça peut être jugé, ça?
Il est question de l'automne 2025, mais j'ai l'impression que ça reculait quand même un peu chaque fois. Puis avec la tension là, avec les États-Unis autour du Groenland, je ne sais pas si ça tombe au bon moment.
Ouais, on n'a jamais entendu parler du Groenland que depuis quelques semaines.
On a eu du nez d'aller faire ce reportage avant.
Pourquoi?
Ah, mais non, mais on a eu du nez parce que ça intéresse encore plus, je pense, parce qu'on a ramené ce reportage qui est infaisable aujourd'hui parce que ces femmes ne veulent plus parler. Nayali Berthe, là, j'ai eu un échange ce matin avec elle par télé, par message. Elle m'a dit, notre position aujourd'hui, tout le monde veut nous interviewer parce que les journalistes cherchent toujours des angles, des choses, ils vont au Groenland. Et là, c'est typiquement quelque chose de la colonisation danoise, du rapport du Groenland avec son pays colonisateur et avec lequel ils gardent énormément de liens. Et bien, elles ne veulent plus parler parce qu'elles ne veulent servir aucune des deux causes. Donc elles ne donnent plus aucune interview. Et c'est un des gros sujets qui anime quand même la société groenlandaise et qui permet peut-être de comprendre des choses, parce que ces femmes parlent, les Inuits ne parlent pas volontiers, les Groenlandais ne parlent pas volontiers. Donc c'est là que j'y en ai eu du nez, oui, parce qu'on a fait ça avant et aujourd'hui ce serait pas possible.
Irez-vous jusqu'à dire que l'argument économique, on a fait ça pour des questions économiques, ça cache derrière plutôt de l'eugénisme qu'autre chose?
Je ne sais pas si c'est de l'eugénisme, parce que ils ont fait d'autres choses dans le genre pour améliorer les choses dans la population. Les Danois, ils ont par exemple, dans les années 50, pris 6 enfants inuits et puis ils les ont envoyés au Danemark, ils les ont enlevés à leurs parents, ils les ont envoyés au Danemark pour les élever à la danoise et former la future élite du Groenland. Donc là, on est plus, je trouve, dans une forme d'eugénisme. Là, c'était plutôt arrêter, quoi. Qu'il y en ait moins, qu'ils soient moins nombreux et qu'ils coûtent moins cher.
18 minutes, le format, il est imposé par la télévision.
Oui, malheureusement.
Pourquoi? Vous auriez encore des choses à dire là-dessus?
Oui, on aurait bien voulu faire encore plus, je pense. Oui, bien sûr, il y a matière.
Joris. Et peut-être une séquence pour le cadreur, pour la journaliste que vous avez tournée, que vous n'avez pas pu mettre dans le reportage. Une séquence qui vous a marqué?
On a bien utilisé les choses quand même. Hein. On avait les témoignages, ils sont tellement poignants que parfois on aimerait raconter encore plus leur histoire de chacune, hein, parce qu'elles sont tellement touchantes, incroyables et puis dignes. Donc on aurait pu allonger comme ça les choses. Il y a peut-être un petit regret, regret. Les choses se sont faites comme ça. Mais le gynécologue danois, qui est un peu bizarre quand même, faut reconnaître.
On ne le sent pas très à l'aise quand même.
Eh bien, il s'avère que il était le gynécologue dans la ville où on revient après, qui s'appelle Manitsoq. Et c'était le gynécologue de cette femme, Inge, qui lui a posé après son avortement sans lui dire, etc. Et ensuite qu'il lui retire à l'âge de 35 ans, en faisant mine de rien, je suis pas au courant, et qu'il lui retire de manière très très violente. Donc ça aurait aussi mérité peut-être d'être raconté. Bref, mais on n'a pas pu les faire se répondre parce qu'on a interviewé le gynécologue avant d'aller au Groenland et on savait pas que dans le cas particulier, il s'occupait donc par honnêteté, on n'allait pas mettre le témoignage de Inge contre lui, parce qu'elle nous en a parlé de ce médecin. On n'allait pas mettre le témoignage contre lui alors qu'on n'a pas pu le confronter à ça. Donc voilà, par honnêteté, on n'a pas pu le faire. Mais ça, c'est un petit regret de ne pas avoir fait dans l'autre sens. C'est comme ça, on ne savait pas.
Et au gynécologue, vous l'avez dit, voilà, le sujet de votre documentaire, oui. Il a tout de suite dit oui.
Oui, il a dit oui. Il a dit oui, j'étais très étonnée, mais il a dit oui. Mais je pense que lui, il était un peu quand même dans son... dans ses certitudes qui sont qu'il dit, moi je suis arrivé après 74 et après 74 il s'est rien passé. Alors c'est vrai que les choses se sont un peu calmées, mais ça continuait et qu'ils ont changé de matériel, c'est-à-dire au lieu du stérilet en spirale, ça a été le stérilet en forme de T, et donc il estime qu'il est celui qui a introduit ce stérilet au Groenland et que c'était beaucoup moins douloureux pour les femmes, etc. Donc il pense honnêtement qu'il a pas fait de mal, lui. Il est certain qu'il a plutôt apporté le bien et qu'en plus, ben, comme souvent dans cette histoire de colonisation où qu'elle se passe, les colonisateurs pensent qu'ils font le bien. Et d'une certaine manière, rien n'est si blanc, si noir. On comprend qu'à cette époque, enfin, on ne peut pas juger toujours une époque à l'aune d'aujourd'hui. Hein, mais voilà.
Carole.
Et puis, le regard aussi de son épouse, c'est très perturbant. Il y a aussi... regardez...
Inuit. Hein.
Voilà, son épouse inuit. Bah, je me suis mariée avec une inuit, donc bon, j'ai rien contre eux, quoi. Hein. J'ai un ami noir, hein. je suis pas raciste. C'est, voilà. Ça fait un peu ça. Mais le regard de sa femme, elle a besoin de rien dire. C'est tout. Vous l'avez bien capté.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on a été hyper surpris, parce qu'on est arrivé chez lui, on a découvert que sa femme était inuit, on le savait pas.
Mais elle n'a pas voulu parler. Hein.
Ouais, mais c'est vrai que ça nous a fait bizarre. Enfin, on s'est dit, bah, effectivement, il a remis un petit cadeau. Quoi.
Ouais.
Ce film, diffusé donc sur France Télévisions, diffusé également au Danemark ou pas ? C'est envisageable ? C'est faisable ?
Je ne sais pas. Ce serait bien. Bah, ce serait bien. Alors, il est diffusé sur France 2 et France 3 et France Info. Mais il a été repris par TV5 Monde, donc il a pu passer au Danemark, puisque c'est diffusé partout, TV5 Monde.
Des retours, justement
Du Danemark, non. Pas du Danemark, non.
On s'attend à des retours quand on fait un documentaire comme ça.
Quand il est bien, on n'en a pas beaucoup, malheureusement. C'est quand on fait des erreurs ou qu'on subit beaucoup de critiques, mais on a peu de compliments, c'est vrai, hein, en général.
Et que de le voir là sur grand écran, notamment quand on travaille comme ça sur les regards, sur l'émotion, sur quelque chose de très sensible, on a beaucoup de regards avec des yeux humides, des femmes qui pleurent. Avec malgré tout beaucoup de pudeur, et ça c'est tout à fait remarquable, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de voyeurisme et tout de suite on va au-delà de l'empathie, on se dit mais quelle injustice, on parle d'injustice et de le voir sur grand écran, cette séquence émotion, ça rajoute en plus ou pas pour vous?
Moi je suis un peu perfectionniste, donc je vois un peu plus les défauts sur un grand écran.
Mais on les a pas vus.
Voilà. Non mais en fait je sais pas si la taille de l'écran compte, parce que c'est vraiment l'émotion qui transparaît, quoi. Donc que ça soit vu sur un téléphone, sur un grand écran, je sais pas si l'émotion passe de la même manière.
Toi, tu pleures toujours un petit peu.
Ouais, moi c'est vrai qu'à chaque diffusion, j'ai du mal à pas avoir les yeux mouillés aussi. C'est ouais. Vraiment, vraiment, c'est vraiment poignant, quoi.
Moi, j'ai envie d'ajouter une chose. Vous disiez la pudeur, etc. Et on salue jamais assez le montage. Et je trouve que là, c'est une vraie merveille de montage, une leçon de montage, parce que justement, la monteuse qui s'appelle Nathalie Trebern a juste arrêté à la lisière des larmes, juste mis ça, la petite dose parfaite, et ça, c'est le boulot de la monteuse, de la petite dose parfaite où. Et ça s'arrête, c'est pas impudique jamais, et c'est une grande classe ce montage.
Oui, et puis quand on sait ce que réclame l'entretien pour aller cueillir la parole, j'imagine également la longueur de ces entretiens pour respecter ce temps où l'émotion submerge et on laisse passer et on y retourne. Vous avez dû passer beaucoup de temps auprès de ces femmes.
On a
établir
passé du temps.
Une confiance tout à fait particulière et très forte. C'est plus facile. Est-ce que que de parler de femme à femme, ça a facilité les choses.
Bah, peut-être, je ne sais pas, mais non, mais Mathieu était là.
J'étais le seul homme, je me suis caché derrière la caméra.
Ouais. Mm-hmm.
Mais il y a eu un travail aussi pour filmer aussi ces femmes. Quel était votre dialogue aussi, votre échange pour filmer ces femmes aussi? Parce qu'on parle de corps, on parle d'intimité, et on filme vraiment aussi leur regard, leur visage. Quel a été le travail pour...
Déjà, on prend pas des caméras énormes, ouais. Ce qui, je pense... psychologiquement rassure, c'est des appareils photo en fait qui filment, donc c'est un peu plus discret qu'une grosse caméra épaule. Et puis on essaie d'être discret. Alors après, je sais pas si c'est soi-même, si c'est le matériel, si c'est ce qu'on dégage, j'en sais rien, mais en tout cas, les femmes elles se sont livrées vraiment facilement. On n'a pas senti une gêne. Peut-être que c'était vraiment important. Elles ont passé leur barrière de la timidité pour témoigner, parce que pour elles c'était très important. Je ne sais pas, mais. Ouais, c'est vraiment important de...
Et enfin, dernière sensation. Moi, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si c'est partagé par mes collègues autour de cette table, mais d'entendre quasiment la parole de ces enfants absents. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on parle de personnes qui ne sont pas là, mais qui auraient dû être là. Et c'est quelque chose de tout à fait particulier, d'assez déstabilisant. Comprenez ce que je veux dire ? Au-delà de tout ce qui est évoqué, on peut parler de traumatisme, de mutilation, de souffrance encore aujourd'hui pour ces femmes, mais on parle également de personnes qui n'ont pas pu venir sur cette planète. Mmh. Et ça, c'est un truc assez incroyable.
Mmh. Mais il y a eu un très joli effet d'image
à Gladys. Qui disparaissent, oui.
Voilà, ouais, ça c'est sur une excellente idée. Voilà, le talent d'un caméraman qui pense qui a cette idée, qui écrit avec sa caméra comme un stylo l'image qu'on va utiliser avec ce bel effet.
Antonin, une question ?
Je tiens à rebondir sur ce que tu disais. La lanceuse d'alerte, rappelez-moi son prénom.
Naya.
Elle a eu la chance d'avoir un fils, justement. Et en fait, au moment où on l'apprend dans le documentaire, c'est limite si on sent sa présence à lui, derrière elle, et que justement, toutes les autres qui n'ont pas pu en avoir, on sent un peu le vide autour d'elle. Et donc, du coup.
Le documentaire les rend présents. C'est un truc incroyable.
Présents les absents.
Hein, ça rend absolument présent les absents. Bravo en tout cas.
Merci.
Superbe travail. Vous avez le temps de découvrir un peu la ville ?
Eh ben, on l'a traversée pour arriver jusqu'ici. J'espère qu'on aura un petit peu de temps. On est là jusqu'à demain, alors on va se promener.
Voilà. Et puis, prochain projet pour vous, c'est quoi actuellement ?
Alors, c'est beaucoup plus soft et calme. On part après-demain,
dimanche
ouais. En Islande. Sur le cinéma en Islande, vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Ah. Islande, terre de cinéma, donc c'est tranquille. On ne va pas pleurer, on va rire.
Bon, et puis quand même, l'Islande, il faut profiter de ces volcans et puis de ces mages. Je vous souhaite en tout cas un très bon séjour et merci d'être passé aujourd'hui sur notre plateau. Vous écoutez Radio Scarpe Sensé sur le 94.10. Et ma foi, touchez à rien, on revient dans un instant. Ce sera juste après ça. Et je ne sais plus ce que c'est. Ça ressemble à Stevie Wonder, ça quand même. Il me semble un part-time lover. Voici Stevie Wonder. On revient au FIGRA dans un instant. Merci de votre fidélité. Bye.
94.10.
Ah ben voilà, ça arrive, ça c'est le direct. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. Carole me faisait justement remarquer que l'interview de nos invités durait plus longtemps que leur documentaire au final. Et comme quoi, on n'a pas eu toute l'ingéniosité pour faire dans la concision telle que le permettent avec ce documentaire qu'on vous recommande encore une fois très chaudement et qui s'appelle Stérilisation. Je l'ai oublié, je l'avais
forcé. Oui. Le combat des femmes inuites.
Voilà, on va parler d'autres documentaires. Antonin, qu'as-tu vu pour nous ?
Alors, mineurs en peine, des procureurs en première ligne. Donc, on suit les procureurs de la DIFAGE. Donc, c'est le... comment dire ?
Le tribunal.
Oui, on va dire la section qui s'occupe spécialement des jugements envers des mineurs qui ont été victimes. Il faut bien préciser que les mineurs ont été victimes dans la plupart des affaires traitées. Donc on suit le tribunal de Bobigny, donc, qui est le deuxième plus grand de France. Et donc on suit ses procureurs, ses avocats généraux, au cours de certaines affaires, pas toutes, il y en a tellement, pour dire ils ont à peu près 10 appels toutes les heures. Donc c'est quand même un rythme assez soutenu. 10 appels par poste, à peu près. Donc on suit principalement 3 procureurs et avocats généraux. Le premier, c'est un cas où le père a enlevé et maltraité ses enfants, en fait. Et tout le problème est de, justement... comment dire, apporter la peine dont les accusés méritent. En fait, c'est tout leur combat. C'est
vrai. Et que la sanction soit également comprise et acceptée par le mineur pour lui reconnaître sa qualité de victime.
C'est ça. Après, ils sont, comment dire, là, dans cette affaire, par exemple, il y avait 7 accusés, parce qu'en fait, ça a été un enlèvement prémédité. Et donc, il y a eu des aides, dont un qui était actuellement en prison, donc il a pu aider alors qu'il était sous les barreaux. Et donc en fait, l'avocate générale s'est retrouvée à 1 contre 7 avocats, donc c'est des affaires qui peuvent être complexes. Après, il y a également un cas de prostitution où la jeune fille a 14 ou 15 ans d'après mes souvenirs, où elle a déjà eu, elle s'est déjà prostituée. Donc c'est vraiment la situation d'urgence et d'aide le plus rapidement possible envers les enfants.
Alors, je suppose qu'on focalise véritablement sur le travail de ces professionnels du droit, des tribunaux.
C'est ça. On les suit déjà quand ils réceptionnent les appels. Donc, ça peut être des policiers, des témoins.
Ils sont blasés ou pas ?
Alors, oui et non. En fait, ils sont blasés dans un sens où, à chaque fois qu'ils entendent une histoire, Bon, certaines malheureusement deviennent classiques, mais d'autres choquent encore, donc ils sont blasés à propos de ça. Mais le fait de voir autant de violence, de maltraitance, fait qu'eux arrivent à s'en détacher et à créer de l'humour et une bonne ambiance au sein de leur bureau. C'est pas du tout de l'humour qu'on pourrait qualifier d'humour noir, ouais. C'est vraiment de l'humour pour pas se faire submerger par cette violence.
C'est la mise à distance nécessaire pour pouvoir travailler.
Comme on le disait juste avant, un caméraman avec son sujet, à des moments, il est obligé de prendre une certaine distance ou, si nécessaire, d'accompagner.
La parole des victimes, la parole des auteurs, elle figure dans le documentaire où on est uniquement sur le récit des professionnels.
Alors justement, pas de droit de caméra lors des procès. Donc les procès sont réécrits à la main et réenregistrés en voix off. Et c'est seulement la parole de l'avocate générale que l'on suit. On n'a pas d'enregistrement de témoins, d'accusés, justement.
Ça donne pas trop de lourdeur au documentaire ?
Non, justement, parce qu'en fait, c'est tout ce côté administration, rouage qui est démantelé, qui est vraiment expliqué de bout en bout. Et comme on en discutait avec un confrère, c'était... que le seul petit reproche qu'on pourrait avoir au documentaire, c'est de ne pas expliquer précisément certains termes juridiques dont la plupart d'entre nous n'avons pas forcément les codes, car c'est quelque chose de très restreint. Mais à part ça, le documentaire est vraiment très efficace sur ce qu'il veut raconter.
Merci Antonin. Ça s'appelle
Mineurs en peine, les procureurs en première ligne.
Et c'est en compétition dans quelle catégorie dans le plus de 40
Normalement, c'était le plus de 40, si mes souvenirs sont bons.
Il n'a pas préparé.
Non, je n'ai pas préparé.
Je ne le crois pas. Il sèche les cours et il ne prépare pas son truc. Mais c'est
incroyable. C'est pas bien.
Il va aller ramasser les feuilles devant, je pense.
Voilà, c'est ça.
À l'ancienne. Voilà. Moi, je choisis la peine également. Tira, ramasser les feuilles.
C'était en compétition officielle.
Voilà. Merci beaucoup. Carole, d'abord, avant peut-être de nous parler de documentaire, hier, tu étais au théâtre.
Oui. Hier, je suis allée voir la pièce de théâtre dont on a parlé, La France Empire.
Ouais.
Et... en fait, c'est
deux heures
intenses. C'est vraiment étonnant. Nicolas Lambert incarne de nombreux personnages. Il incarne sa fille, il incarne ses grands-parents, il incarne tout le monde. Il incarne le général de Gaulle. Au départ, c'est assez léger, ça fait un peu histoire de famille, etc. Mais il y a des petites choses qui arrivent au fur et à mesure. Et waouh, la masse d'informations qui nous arrivent, je pense, et j'ai la chance, moi, d'avoir le livre du spectacle, le livret du spectacle, il faut le relire parce que tout ce qu'il dit... Eh bien, fait objet d'une note en bas de page pour dire voilà, je ne l'invente pas.
C'est sourcé, quoi.
C'est sourcé. Donc, waouh.
Ouais. Wow. Donc, c'est pour aller au-delà du récit national, pour véritablement regarder l'histoire en face.
Voilà.
Et mettre des mots quand il faut parler clairement de guerre, parler de guerre, quand il faut parler de colonisation, parler de colonisation.
De détomisation,
c'est pas facile à dire ça. Ouais. Voilà, il explique tout ça. Donc tu as passé un bon moment.
Ah ouais,
beaucoup de spectateurs.
Oui. Ouais. Beaucoup de spectateurs. C'était vraiment. C'est étonnant, cette pièce de théâtre dans une salle de cinéma.
Est-ce que tu as oublié le cinéma ?
Un peu.
Ouais.
Un peu. Mais il fait son cinéma, dirons-nous. Ouais. C'est vraiment quelque chose de vraiment ça interroge aussi. C'est à la fin, il parle de Mayotte, des Comores. Mais c'était des tas de choses que je ne connaissais pas. Je vais aller me renseigner un peu plus. C'est vraiment dense. C'est très intéressant.
Ouais, parce que ça parle de la France d'aujourd'hui également et. Voilà, de ce besoin, finalement, à chacun de connaître l'histoire telle qu'elle doit être racontée. C'est pas moralisateur.
Non, moi, j'ai pas trouvé que c'était moralisateur. Alors, en off, j'ai pu rencontrer une nouvelle fois Nicolas Lambert, Et je lui demandais s'il n'y avait pas des pressions parfois. En fait, la pression, c'est il ne peut pas jouer son spectacle partout. Il ne peut pas jouer sur une scène nationale.
Ouais.
Donc, c'est un peu gênant parce que ça fait de la censure quand même.
Parce que c'est en dehors des clous et que ça déplaît. Que...
Voilà. Donc si,
il faudra encore du temps pour dire clairement les choses et assumer pleinement les choses.
Ouais, donc, si vous êtes un organisateur indépendant de spectacle, eh bien, n'hésitez pas à contacter Nicolas Lambert. Il y a plein de choses.
Retour à l'écran. Qu'as-tu été voir pour nous, Carole ?
Alors, ça date d'il y a quelques jours.
Oui.
Le maire contre la multinationale.
D'accord. On est en France ?
On est en France. Et donc, le jeune réalisateur Thomas Lafarge suit un maire dans les Hauts-de-France, du côté de Soissons, qui se bat pour qu'une usine, Rockwool, ne s'implante pas sur un plateau du Soissonnais.
Et pourquoi il n'en veut pas de cette usine ?
Alors, pourquoi il n'en veut pas ? Parce que les cheminées vont émettre des substances qui vont polluer. Ouais. Qui vont polluer l'air. Les particules les plus lourdes vont retomber sur les terres, puisque l'usine est sur un plateau haut.
D'accord.
Et donc les fumées vont vers une cuvette, et donc des terres agricoles.
Et pourquoi le promoteur veut-il venir là, précisément ? Est-ce qu'on le sait, ça ?
Parce qu'il a acheté les terrains.
D'accord.
C'est à lui.
Et qui lui a vendu ?
Ah ça, je ne sais pas. J'ai oublié de demander.
On ne va pas jusque-là.
Oui, voilà, non. C'est ça.
D'accord.
Mais il y a quand même des gens
Mais il y a des gens qui veulent cette usine parce qu'on a besoin de travail, madame.
Ah bah oui. Mais bon, alors effectivement, hein, c'est la fin du monde ou la fin du mois. Hein.
Ouais.
Donc il y a tout ça. Mais c'est aussi un enjeu. L'enjeu écologique, il est important. Et puis il y a aussi une forme de déni de démocratie, dans le sens où il organise un référendum dans sa commune où il y a 80, plus de 90% des votants et des gens qui se sont inscrits sur les listes électorales spécialement pour voter. Donc ça veut dire que ce sont des citoyens qui sont actifs. Et là, le préfet lui dit « Ah oui, non, mais votre référendum, votre consultation, vous pouvez la mettre là où je pense, elle sert à rien. »
Il en est où, monsieur le maire ? Il baisse les bras ? Il se bat encore ?
Ah, il se bat. J'ai appris un truc, la règle des 3 R et des 5 C. Est-ce que Hervé, tu connais ?
Non, vas-y.
Alors, il faut répéter.
Ouais.
Et puis après, c'est con, mais c'est comme ça.
D'accord, ok, bon ben voilà.
Voilà, donc...
Je la retiendrai celle-là.
Voilà, des 3 R et des 5 C, parce qu'une fois qu'on a répété au bout de 3 fois et si les gens n'ont pas compris, bah tant pis, c'est vraiment con, mais c'est comme ça. Et il est passé le 5 juillet à la cour d'appel administrative de Douai,
ouais.
Et contrairement à ce que le journaliste pouvait penser, parce que lui, il s'est dit, c'est plié, quoi...
Ouais.
Eh bien, ils ont gagné. Donc maintenant, Rockwell a un recours au-dessus pour essayer de dire, bah oui, non, mais c'est notre droit d'être sur ce...
Donc l'affaire n'est pas terminée, il y a le recours qui va être examiné.
Voilà.
Voilà. C'est un documentaire qui va inviter les gens à rentrer en responsabilité dans leur commune ou qui tente plutôt à les décourager en disant, mais finalement, c'est beaucoup trop d'emmerde, cette affaire.
Alors, il y a les emmerdes qui sont là. Les emmerdes sont là. Et puis, il faut comment ça s'appelle ? Il faut se mettre... il faut quand même bouger. À un moment donné, c'est 50 000 euros pour payer l'avocat. Donc, on est dedans, quoi.
Ouais.
Mais, allez, vous avez un combat. Il faut le mener. Parce que c'est con, mais c'est comme ça. Mais on peut y arriver.
Voilà, comme quoi, le Figaret, ça nous emmène au bout du monde, mais ça nous parle également de la proximité. Je rappelle qu'on est en région Hauts-de-France dans ce documentaire. Joris, qu'as-tu vu pour nous ?
Eh bien, moi, j'ai vu deux courts-métrages aujourd'hui. Compétition moins 40 minutes. Donc aujourd'hui, vendredi 4 avril, le chant des cartels de Alex Gohari et Léo Matei. Au Mexique, les narcos Corrido chante à la gloire des cartels de la drogue. Ouais. Savoir que les chanteurs numéro 1 au Mexique et aussi au nord de l'Amérique, eh bien, c'est ceux qui prônent la drogue, la violence, ceux qui prônent aussi les parrains de la drogue.
C'est du rap marseillais, quoi.
mais attention, on en rigole, mais c'est vrai que c'est dangereux parce que c'est des musiques qui touchent les jeunes, voire les très jeunes, justement, avec cette musique qui est en même temps, c'est vrai, du rap et en même temps cette musique un peu traditionnelle mexicaine, mais c'est des paroles assez fortes et
qui séduisent donc un marché, c'est ça, c'est la musique en termes de technique de marketing pour les
contrôlé par le chef des cartels, en fait. D'accord. Qui est surnommé le Taliban, et par exemple un jeune
charmant prénom
surnommé le Taliban, un jeune qui veut par exemple devenir chanteur, il est obligé de respecter, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de lui, il parle bien sûr des cartels, du patron, donc les textes, l'enregistrement est contrôlé, tout est contrôlé. Donc,
pour être sûr d'atteindre la cible et de rester dans les clous et de véhiculer d'atteindre. Enfin, c'est du marketing.
Voilà. Et dès qu'il rentre dans cette sphère de la musique, il est tout de suite la cible d'autres cartels. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de jeunes Mexicains qui ont perdu la vie à cause de vengeance, en fait. Donc aujourd'hui, c'est un vrai fléau au Mexique, et ça existe depuis une vingtaine d'années. Ces chansons, ces narco-corridos, et c'est en passe en plus de encore se développer, parce que maintenant ça va rentrer aussi dans les boîtes de nuit.
Ouais. C'est un documentaire qui est dans quelle catégorie, quelle compétition, celui-là ?
Moins de 40. Donc c'est un documentaire de 36 minutes, voilà, que vous pouvez encore consulter à la vidéothèque. Hein.
D'accord. Allez, un petit dernier pour la route, et après il faudra se dire au revoir.
Mais je pense qu'on peut finalement parler de radio, parce qu'on fait de la radio. Ça s'appelle Radio Begum, la voix des résistantes. Un documentaire de Solène Salvon-Fioriti. Radio Begum, la voix des résistantes sous le régime des talibans. C'est le seul moyen d'expression maintenant pour ces femmes justement, afghanes, de faire encore, de s'exprimer.
Avec une prise de risque incroyable, je suppose.
Oui, parce qu'en fait, la radio est uniquement composée de femmes, une trentaine de femmes, journalistes, chroniqueuses, qui à l'antenne ne doivent pas rire, ne doivent pas parler avec des hommes, ne doivent pas donc donner de blagues, ne doivent pas diffuser de la musique. Et donc, c'est des programmes. Alors, c'est des programmes. Pour continuer à émettre, elles doivent se censurer, tout simplement. Voilà. Et il y a quand même des programmes qui sont un peu sur le fil. Il y a notamment un programme religieux où on parle quand même de féminisme, de... on essaie un peu de parler de contraception, mais sans vraiment trop en dire. Donc ils sont vraiment quand même sur le fil, parce qu'ils veulent vraiment porter la voix des femmes. Et puis aussi ces femmes qui ne vont plus à l'école, c'est l'école qui vont vers elles, puisqu'il y a des cours grâce à la radio. Il y a des professeurs qui donnent des cours à la radio pour ces femmes qui sont dans des villes, ou tout comme dans des villages au fin fond de ce pays.
Radio de résistance ou radio de soumission ?
Radio de résistance, ouais.
Parce qu'on pourrait se poser la question, finalement, que de se dire, voilà, vous pouvez faire de la radio, mais on vous donne les règles. Est-ce qu'elles se soumettent, ou est-ce qu'elles... Ou plutôt, pour elle, c'est un engagement et une forme de résistance.
C'est une forme de résistance pour moi, parce que ce sont ces dernières femmes qui peuvent parler encore à l'antenne, qui ont une voix, malgré en effet une censure. Mais ces femmes, par exemple, il y a un moment dans le reportage, c'est une femme qui prend le micro et qui va vers la dernière clinique des femmes dans ce pays, justement. Donc elles osent prendre le micro, elles osent prendre la parole, et surtout elles sont là aussi pour faire vivre encore la radio. Et je terminerai là-dessus, la radio, les hommes les ont poussés de la rue, c'est Aujourd'hui, elles sont sur les ondes et c'est leur seul moyen et dernier moyen d'expression.
Ah, c'est merveilleux que de terminer cette semaine autour d'un documentaire sur la radio. Merci Carole. Voilà, bonne fin de festival.
Il n'y a pas de quoi, c'était super comme d'habitude.
Voilà, merci Antonin.
Merci beaucoup.
Joris, bonne soirée.
Merci beaucoup. Voilà. Merci Hervé d'avoir fait ces directs de main de maître.
Tu vas ce soir aller écouter ce qui se passe du côté des films primés.
Oui.
Ouais. Eh bien, Carole.
Non.
Non.
Non. Non. Non. Ouais. Non. Je vais faire une petite soirée off.
Le résultat importe peu finalement dans la compétition. Enfin, moi, c'est pas le moment que je préfère dans le Fugreuve. Voilà, je pense que tous les documentaires méritent en tout cas d'être vus.
C'est un vrai tour du monde. Tout en restant chez soi.
Voilà. Vous retrouvez l'ensemble de nos émissions, évidemment réalisées à l'occasion de ce FIGRA, sur le site internet de Radio Scarp, censé sur la plateforme podcast également. Et puis retrouvez également les bonus, c'est-à-dire tout ce qu'on a en boîte et qu'on n'aura pas le temps de vous faire écouter au cours de nos émissions ici enregistrées et réalisées au plateau direct de Radio Scarp, censé au cinéma Majestic à Douai, que l'on remercie une fois encore pour son accueil. Merci, passez une bonne soirée sur le 94.10 et à bientôt.